Décryptage, Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète, soyez les bienvenus.
RFI.
Les Brésiliens appelés aux urnes dans maintenant moins de 3 semaines, élection présidentielle prévue le 2 octobre prochain.
Je demande à Dieu qu'il nous illumine. Nous avons tout pour devenir une grande nation, pour changer le destin de notre pays. Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous. Merci beaucoup.
Nous n'agirons jamais comme notre adversaire qui essaye de masquer son incompétence en provoquant des bagarres avec tout le monde et en mentant 7 fois par jour.
Il y a encore quelques jours, l'ancien président de gauche, Lula, n'allait faire qu'une bouchée du président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Mais le duel annoncé se resserre à en croire les enquêtes d'opinion. Jair Bolsonaro a beau être plus isolé qu'au début de son mandat, l'ancien militaire a toujours une base électorale confortable. Enfin, même si l'ancien métallurgiste semble promis un retour au pouvoir cette année, Lula peine à convaincre. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Stéphane Witkowski, président du Conseil d'orientation stratégique à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et Hervé Théry, géographe, professeur à l'Université de Sao Paulo, auteur du livre « Le Brésil, pays émergé » chez Armand Collin. Bonsoir et bienvenue à tous les deux.
Bonsoir.
Une émission Décryptage préparée par Sigrid Azarwal, Éléonore Krenik, Hélène Avril et Charles Barre. L'écart entre les deux favoris, qui était de 21 points fin mai, selon l'institut de référence Datafolia, 48% des intentions de vote au premier tour pour Luiz Inácio Lula da Silva, 27% pour Jair Bolsonaro. Eh bien, cet écart est passé à 11 points ce week-end. Autrement dit, 45% pour Lula, 34% pour Bolsonaro. Première question avec vous, Stéphane Witkowski. À quoi peut-on attribuer cette dynamique plutôt favorable de ces derniers jours de Jair Bolsonaro ?
Je dirais qu'il y a un petit effet 7 septembre. 7 septembre, c'est la fête nationale. C'était le bicentenaire de l'indépendance du Brésil. Et donc, le président sortant a utilisé un peu cet événement pour en faire un événement de politique intérieure et en grande partie utilisant tous les stratagèmes, y compris d'ailleurs, pour l'anecdote, il a fait venir le cœur embaumé du premier empereur du Brésil en 1822, Pedro I, dans une scène, donc ce cœur qui a été transféré de Portugal à Brasilia, dans une scène mise en scène un peu ubuesque, est au fond une illustration d'une stratégie un tout petit peu du désespoir, utilisant un peu tous les recours possibles pour essayer de, je dirais à la fois, de susciter un phénomène de réaction nationaliste avec des manifestations dans le pays. Mais c'est vrai que l'écart s'est resserré et que la base électorale, enfin les estimations en tout cas, n'ont pas vraiment changé depuis le mois de mars concernant les scores destinés pour Lula, n'ont pas vraiment changé et l'écart s'est resserré.
Même question avec vous, Hervé Théry.
Oui, c'est même encore un peu plus étroit puisqu'il y a un sondage plus récent qui donne 41-35, donc il ne resterait que 6 points. Et ça donnerait 51-38 au deuxième tour. Donc aucun sondage quand même ne donne une victoire de Bolsonaro au deuxième tour. Et on annonce pour ce soir une grande vague de sondages, pour ce soir au Brésil, donc on verra ça demain, mais la tendance est effectivement celle-là. Je suis tout à fait d'accord sur l'effet 7 septembre, mais il y a aussi les milliards qui ont été mis sur la table. Vraiment, il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir remonter la bourse, enfin, l'auxilio Brésil, l'aide brésilienne, qui est distribué aux plus pauvres, il sait bien que son principal déficit, c'est les pauvres du Nord-Est qui votent massivement Lula. Et donc, vraiment, il a pris racler tous les fonds de tiroir pour pouvoir mettre de l'argent sur la table.
Un mot avec vous sur la fiabilité des sondages au Brésil.
Ils sont normalement plutôt bons. Les années précédentes, enfin, la surprise de 2018 est toujours présente dans les souvenirs de tout le monde. Mais ils sont plutôt bien faits avec les standards internationaux.
Aujourd'hui, avons-nous tort de faire le match Bolsonaro-Lula ? Question sous-jacente, il y a d'autres candidats qui se présentent le 2 octobre prochain.
Il y a d'autres candidats. Alors, il y a effectivement le troisième homme, qui est donc à sa cinquième, je crois, élection présidentielle, Ciro Gomes, dont les sondages l'estiment à peu près entre 3 et 8%. Et il y a d'autres candidats aussi, en particulier, mais qui ne jouent pas dans la même catégorie. Il y a vraiment deux candidats qui se détachent, c'est quand même Lula et Bolsonaro. Mais je dirais que cette phase est encore un tout petit peu préliminaire. Ce qui sera, à mon avis, décisif, ce sera, il y a deux périodes, ce sont l'entre-deux-tours, qui sera absolument décisif.
Donc
parce
entre
que,
le 2 octobre
entre
et
le 2
30
et le 30 octobre. Parce que
prochain.
Là, effectivement, je dirais que c'est une période de haute tension politique à ce moment-là, et tout est possible, et de risque de déstabilisation à tous les niveaux, y compris médiatique, y compris politique, y compris avec des appuis économiques dans certains cas. Et puis une seconde phase qui sera extrêmement sensible et à observer, c'est du 30 octobre au 1er janvier, c'est-à-dire au fond avant l'investiture officielle, parce qu'il y a comme le système, un peu comme le système président américain, l'investiture officielle du président élu le 1er janvier. Et ces deux périodes sont des périodes de grande incertitude où, dans un régime un peu aux abois, tout est possible et un scénario à la Trump est dans l'esprit de beaucoup de personnes.
Et quand vous dites que tout est possible, hein, les deux principaux candidats portent un gilet pare-balles lorsqu'ils sont en campagne électorale. Autre illustration de cette division, de cette polarisation des courants de pensée au Brésil, il y a encore quelques jours, un sympathisant du président brésilien Jair Bolsonaro, tué de 15 coups de hache par un soutien de l'ex-chef d'État Lula. Alors, certains faits divers, mais illustration tout de même d'un réel clivage aujourd'hui au Brésil, Hervé Théry.
Oui, le Brésil est très clivé, beaucoup plus que d'habitude. Et on peut faire remonter à 2013 les premières manifestations de masse, alors que jusque-là, c'était vraiment un pays du consensus. Mais là, vraiment, c'est très tendu. Mais sans comparaison avec bien d'autres pays, il y a eu un mort bolsonariste, un mort pétiste jusqu'à présent. Donc c'est assez peu de choses. Je reviens un tout petit peu à ce que vous disiez. Je pense que la sécurité est quand même assez lâche. J'ai assisté le 15 août à un meeting de Lula dans mon université, dans mon bâtiment. Donc il était vraiment sur place.
À Sao Paulo, donc.
À Sao Paulo. Et j'étais à 3 mètres de lui. Et bon, je n'ai pas vu s'il avait un gilet. Mais en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de protection. Ou elle était très discrète. Mais il y a beaucoup moins la crainte des attentats que chez nous. Effectivement, à part celui dont a été victime Bolsonaro en 2018, il n'y a pas une tradition, Dieu merci, d'attentats au Brésil. J'espère que ça va continuer. Puisque...
Un mot avec vous sur la politique en ce moment opérée par Lula. Hein. Sixième candidature, 76 ans, figure de la gauche du continent sud-américain. Une coalition baptisée Allons Ensemble pour le Brésil réunit aujourd'hui 9 formations politiques allant de l'extrême gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aujourd'hui jusqu'au centre droit.
Oui, il a pris comme colistier son principal concurrent d'élection précédente, Gerald Alckmin. Donc ça va très loin. Effectivement, ça a un petit côté tous contre Bolsonaro. Mais je crois que la particularité de cette élection, c'est moins une élection pour qu'une élection contre. Et donc on en est à mesurer les taux de rejet des uns et des autres. Lula avait eu, Bolsonaro a été élu parce qu'il y avait un très fort rejet du PT. Et entre-temps, le rejet de Bolsonaro est devenu plus fort. Donc je pense que beaucoup de Brésiliens votent plus contre que pour.
Un dernier aliment d'ailleurs en date, hein, c'est l'écologiste et ancienne ministre de l'Environnement, Marina Silva, qui apporte aujourd'hui son soutien à Lula également.
Bien sûr, l'environnement est un sujet essentiel et surtout que le bilan de Bolsonaro dans ce domaine est absolument catastrophique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Lula a toujours fait preuve de grande intelligence politique et de pragmatisme. Pragmatisme à la fois sur le plan politique et pragmatisme sur le plan économique. Lors de son premier mandat, il avait su trouver une alliance avec les milieux économiques et financiers. Et l'une de ses premières mesures avait été de nommer comme ministre de l'Industrie et du Commerce de son gouvernement le président de la Fédération du patronat de São Paulo, qui est vraiment un État dans l'État. C'est comme si un représentant de la CGT devenait président de la France, nommait le président du MEDEF ministre de l'Industrie et du Commerce, pour prendre une image un peu schématique. Mais c'est le pragmatisme qui a prévalu, avec effectivement cette alliance avec Alckmin de la part de Lula, mais aussi le fait que les milieux économiques et financiers préfèrent au fond une alliance avec les milieux bourgeois un peu éclairés plutôt que 4 années de plus avec Bolsonaro, dont l'image non seulement sur la scène internationale est absolument a été très dégradée.
Oui, on en a eu le témoignage quand, au début de son mandat, Bolsonaro voulait supprimer le ministère de l'Environnement. Et c'est en fait les gens des milieux de l'agro-business qui ont dit « ne faites surtout pas ça, ça va faire du tort à nos exportations ». De la même façon, quand il a voulu suivre Trump et transporter, et déplacer de Tel Aviv à Jérusalem l'ambassade brésilienne, on lui a dit « est-ce que vous avez regardé nos ventes de viande et de poulet en Israël et dans le monde arabe ?» Et donc l'idée a tourné très court. Enfin, il y a quand même des digues qui tiennent quand même autour de lui.
Un mot sur le volet économique qui concerne le Brésil et ce dernier chiffre, l'indice des prix à la consommation au Brésil a baissé de 0,7% cet été. Premier recul depuis plus de 2 ans, sachant que l'inflation sur 12 mois est encore à 2 chiffres et à 10%. Est-ce que ce léger bon résultat de ces derniers jours est plutôt une bonne nouvelle dans la campagne de Jair Bolsonaro ?
C'est une moins mauvaise nouvelle, mais ce qui est beau, c'est effectivement, il y a eu un envol, notamment des prix alimentaires, et ça pèse beaucoup, beaucoup sur les pauvres, naturellement. Et donc ça peut aussi jouer. Mais s'il y a une petite embellie, tant mieux.
Non, c'est 15% pour les produits alimentaires. Donc en fait, c'est dans une augmentation de 10%. Mais quand même, la pauvreté, l'extrême pauvreté, a beaucoup augmenté. C'est-à-dire que le nombre, la malnutrition et l'extrême pauvreté a fait un bond considérable entre 2020 et 2022. C'est-à-dire qu'on est passé de 13 millions qui étaient mal nourris en 2020 à 19 millions de Brésiliens en 2 ans, selon l'IPE, qui est un institut extrêmement sérieux, qui a mesuré cette évolution. Et donc, il y a vraiment beaucoup de Brésiliens qui ont faim maintenant. Et donc, il y a aussi une grande part de nostalgie de l'époque Lula, avec ce programme de Bolsa Família, et l'initiative d'essayer de remplacer ça par Auxilia Brasil n'a aucun rapport avec ce que Lula avait envisagé à ce moment-là.
Vous écoutez Radio France Internationale, décryptage Brésil, rien n'est joué entre Lula et Bolsonaro à moins de 3 semaines du premier tour.
Décryptage, Adrien Delgrange.
L'insécurité, la violence et la criminalité sont en train de gagner, comme ici à Rio de Janeiro, où des policiers et des militaires meurent par centaines tous les ans. Alors que les criminels et les bandits ne sont pas punis à la mesure de leurs actes, c'est une question de survie à présent.
La force de Bolsonaro va être d'arriver à obliger les candidats du centre à le suivre dans son discours, avec pour conséquence la banalisation de l'autoritarisme dans la vie publique et la militarisation de la vie quotidienne et de la gestion de l'État.
C'est le seul candidat qui soit prêt à se battre contre la globalisation et le communisme. Tous les autres candidats ne pensent qu'à s'en mettre plein les poches. Bolsonaro, non, il est prêt à faire le ménage.
Des militants, des sympathisants de Jair Bolsonaro qui se présentent pour un deuxième mandat, élection prévue le 2 octobre prochain. Alors ce candidat d'extrême droite n'est pas dépourvu d'atouts. Il dispose d'ailleurs à l'heure actuelle encore de la machine gouvernementale, d'appuis locaux et puis d'une base militante ultra motivée, Hervé Théry.
Oui, c'est à eux qu'il parle. Il cherche constamment à conforter sa base. Il ne fait aucun effort pour l'élargir au-delà de ça. Il veut vraiment renforcer. On peut faire des parallèles assez faciles avec Trump et quelques autres leaders dans le monde. Il a vraiment une base de mécontents, de nostalgiques. On vient d'entendre là des gens qui veulent lutter contre le communisme, vont se croire revenus dans les années 50. Enfin, c'est peut-être l'idée de rendre le Brésil grand de nouveau. « Make Brazil great again ». C'est peut-être ça son idée.
Donald Trump, d'ailleurs, qui a apporté jeudi dernier son soutien le plus complet à la campagne de réélection du dirigeant brésilien. Un type formidable, selon les mots de l'ancien président américain.
Oui, il l'a soutenu de manière assez étrange, d'ailleurs, parce qu'au fond, il y avait des différends avec commerciaux. Mais d'un point de vue politique, en effet, Bolsonaro s'est totalement calé sur la politique Trump. Non, ce qu'on peut dire, c'est que jamais, depuis que Bolsonaro est président du Brésil, il n'a jamais fait un discours se disant président de tous les Brésiliens. Il n'a jamais fait un discours d'union nationale, d'aucune manière. Il a toujours clivé, et ça a été effectivement sa ligne politique, cliver la société, créer au fond des vraies tensions dans le pays. Au fond, c'est une stratégie volontaire. Et d'une certaine manière, il s'est inspiré de Trump pour essayer de rompre toute forme de consensus politique intérieure.
A contrario, si je ne m'abuse, Lula, lui, n'a pas reçu de soutien officiel de Joe Biden.
Non, je pense
pas. Mais c'est presque souhaitable.
Oui.
C'est presque souhaitable parce qu'il y a toujours eu une tradition d'indépendance nationale du Brésil. Il y a une très forte tradition de la diplomatie brésilienne, de l'Itamaraty, qui est donc le ministère des Affaires étrangères, qui est d'une qualité absolument exceptionnelle. Et les vrais diplomates brésiliens qui travaillent et qui connaissent bien tous les enjeux internationaux, qui quand même, dans toutes les enceintes internationales, ces diplomates, en privé, ont beaucoup souffert de ces 4 années de présidence Bolsonaro. Et donc Lula avait réussi justement à remettre le Brésil au centre des grands ensembles internationaux, multipliant des relations avec les pays sud-sud, avec l'Afrique, avec l'Europe. Et Obama ne tarissait pas d'éloges sur le bilan de la présidence Lula. Et à la fin de sa présidence, il avait quitté le pouvoir, il ne pouvait pas se représenter une troisième fois, mais il est donc à ce moment-là, il sortait du pouvoir avec une taux de popularité de plus de 60% de popularité.
Dans ce match annoncé Lula-Bolsonaro au Brésil, le rôle des militaires, alors que le président sortant, Jair Bolsonaro, laisse planer la possibilité d'un coup de force en cas de défaite à l'élection présidentielle. Une armée donc très courtisée là, par les deux candidats. D'après vous, que vont faire ces militaires ?
Alors, le haut commandement, je pense, n'a aucune envie de se lancer dans une aventure. Il l'a marqué plusieurs fois. Il a été annoncé ce matin qu'il y aurait une commission de contrôle militaire des élections pour un peu donner la garantie. Je n'ai pas du tout le sentiment que ce soit pour en contester les résultats. C'est plutôt au contraire pour dire que c'est très bien fait. Il y a un système très au point. Et toutes les tentatives de contester ce système jusqu'à présent ont échoué. Je ne dirais pas la même chose des sous-lieutenants, des lieutenants et des capitaines. Il faut rappeler que Bolsonaro est un ancien capitaine expulsé de l'armée. Donc ce n'est quand même pas quelqu'un qui est en odeur de sainteté dans l'armée. L'armée a le sens de la discipline, donc obéit au chef des armées. Ils ont été bien servis. Il y a 7000 officiers dans les services publics maintenant qui cumulent leur solde avec ça. Donc ils ont été bien servis, mais je ne les vois pas du tout se lancer. Ceci dit, j'ai l'âge de me souvenir que 15 jours avant le coup d'État au Chili, on disait que Pinochet était un pilier de la démocratie, donc il faut être prudent.
Et pendant son mandat, Jair Bolsonaro a également placé, vous le disiez, énormément de militaires à des postes assez importants, et on ne sait pas quand même comment ceux-là réagiront s'ils doivent quitter le pouvoir.
Oui, il est possible qu'il y ait des tentatives de déstabilisation de dernière minute, ça c'est possible. Mais pour qu'un véritable coup d'État militaire au Brésil puisse se réaliser, il faudrait qu'il y ait au moins 4 conditions. 1, que l'armée soit totalement favorable. 2, que la presse soit favorable et l'appuie. 3, que les élites économiques puissent aussi appuyer ce coup d'État. Et 4, que les États-Unis l'appuient. Donc il faudrait aucune de ces 4 conditions ne serait aujourd'hui réunie pour qu'il y ait un vrai coup d'État militaire. En revanche, qu'il y ait une contestation des résultats et avec l'appui de certains militaires et un système, permettant en quelque sorte une sorte d'instabilité politique et invoquant la sécurité nationale qui pourrait justifier des mesures exceptionnelles, ces scénarios un peu du désespoir, on ne peut pas tout à fait écarter cela.
Un dernier mot avec vous, Hervé Théry.
On a un indice, c'est quand Bolsonaro a organisé un débat à la Chambre des députés pour essayer de rétablir le vote manuel, ce qui est absurde puisque depuis 30 ans, il y a le vote électronique. Il avait voulu organiser à ce moment-là un défilé de blinder devant la chambre, ce qui est quand même quelque chose d'assez putschiste. L'armée a refusé. Et en fait, les fusiliers marins ont fait défiler 6 blindés qui crachaient de la fumée noire, qui sont tombés en panne. Ça a sombré dans le ridicule. Et l'abstention de l'armée était quand même intéressante.
Merci à tous les deux, Stéphane Witowski, Hervé Théry, d'être passés par Radio France Internationale. Premier tour des élections présidentielles au Brésil le 2 octobre prochain. Radio France Internationale sera sur place. Second tour prévu le 30 octobre prochain. Merci à vous de nous écouter dans un instant. C'est le débat du jour et demain, derrière ce micro, Anne Corpet.